À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Idriss, sociétaire à La Massif.
J'ai basculé mon assurance de prêt à La Massif. Vu la différence de prix, on n'a pas hésité et ils se sont occupés de toutes les démarches, c'était très simple.
Garantie sans prise de tête, Idriss. Avec la garantie emprunteur de La Massif, vous pouvez économiser 10 000 euros sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sous conditions et économie selon profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuel, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilles Darbribois.
Il est 23h07, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr. Semaine Coupe d'Europe dans l'after, mardi, mercredi, jeudi, vous rentrez absolument rien. Évidemment, on sera là jusqu'à minuit et demi, les soirs de clubs français. Mardi, le PSG et jeudi, les clubs français également au programme. On va se régaler.
Benfica Marseille et Aston Villa Lille.
Cette semaine, exactement. Les gars, on continue à débattre de la victoire lyonnaise de ce soir avec Luigi au 32-16 qui est là. Salut Luigi.
Salut les gars, comment ça va ?
Salut Luigi.
Et toi ?
Eh ben ça va super, d'autant plus après une belle victoire.
Bon, tu n'as pas d'anecdote avec Nelson Montfort ?
Et Luigi, ah,
il remercie un certain Luigi.
Ah oui, ouais, je l'ai pas.
Tu te rappelles ?
Ah, si,
Michael Chang. Fin de la...
Écoutez ça.
Michael Chang interviewé à la fin de son match par Nelson Montfort et en anglais. Et à un moment donné, il remercie un certain Luigi. Et là, t'as, je crois que c'est Michel Drey qui est au commentaire et qui fait non, Nelson, il remercie Jésus. Parce qu'en fait, il avait dit Jésus et Nelson Montfort.
Il est revenu du buffet, je pense. Nelson.
Ah, d'accord.
Tu vois,
le bon vieux Nelson.
Il remercie un certain Luigi. Donc, c'était pas toi, c'était Jésus.
D'accord.
Bon, dis-moi, on parlait avec tout à l'heure Antoine des perspectives à venir de l'OL avant qu'on vienne sur le match. Toi, tu te dis quoi ? Tu te dis que là, c'est complètement relancé, que maintenant, il faut viser l'Europe et que ça devient un objectif ?
Je vais être très clair, je suis pas d'accord avec Antoine.
Ah.
Pour lui, le chemin le plus court, c'est une victoire contre le PSG. Pour moi, une victoire contre le PSG, c'est jamais le chemin le plus court pour te qualifier en Europe. En l'occurrence, je suis pas non plus d'accord avec Flo qui dit oui, mais là, ils ont gagné contre Lorient, Metz, etc. Avant, on fait quand même Marseille, Lille et Nice. Donc, en fait, si tu veux, le début de la relance lyonnaise, il se fait contre des équipes que, si je prends tes mots, Flo, sont hors de notre portée. Bon, donc, moi, j'estime qu'on n'a pas à avoir de complexe face à Brest le week-end prochain. On n'a pas à avoir de complexe face à Nice. Encore moins face à Clermont et Strasbourg qui seront nos deux derniers matchs. Il faut tout mettre sur le championnat. Et, pourquoi j'y crois ? C'est que Pierre Sage, c'est la consécration de la méthode Courbis. C'est là, pour le moment, il fait un super truc de... Il n'y a pas de remplaçant, il y a les titulaires et les finisseurs de match. On a enfin de la stabilité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de fois où on a changé de composition pendant la crise, en s'imaginant que c'était une bonne idée de changer 4 à 5 joueurs par match sur le titulaire. Et... Pierre Sage apporte cette stabilité qui doit te dire que le chemin le plus court, c'est le championnat. Parce que le championnat, c'est de la régularité, c'est de la stabilité dans les résultats. Moi, j'ai juste un petit souci avec Nouama qui ressemble dangereusement à Bertrand Traoré. Mais je lui laisse encore un peu de temps.
Oui, on va attendre un petit peu. Il est sur une mauvaise dynamique, mais on va attendre un petit peu.
Bah ouais, mais c'est depuis le match contre Marseille, il est vraiment un peu à côté de ses comptes.
Mais c'est de pire en pire.
Les gars, Luigi reste avec nous, mais voilà. Pierre Sage est en conférence de presse, donc on va écouter le début de son intervention.
On se crée des situations en attaque rapide, mais Anthony Lopez a aussi fait ce qu'il fallait pour nous laisser dans ce match. Voilà, et du coup, ça nous a permis de rester dans le match et de connaître le scénario que vous avez vécu avec nous en fin de match.
Alors écoute, Pierre Sage, conférence de presse en direct, encore une réponse. On n'entend pas la question. Ça parle de... Ah oui, on lui parle d'Europe, justement, à Pierre Sage.
En fait, au lendemain de notre qualification en finale de Coupe de France, on a réuni les joueurs pour assumer cette ambition-là avec le staff, en se disant, voilà, la vision qu'on a, c'est de jouer cette 7e place jusqu'à la fin de saison, ou mieux. Et on sait que ce parcours-là, qui se construisait sur 7 matchs de championnat plus un match de Coupe de France, sera peut-être semé d'embûches. Mais dans tous les cas, la manière dont on s'est maintenu en Ligue 1 en obtenant les 35 points lors de la dernière journée, on s'est dit qu'on ne lâcherait jamais, qu'on irait jusqu'au bout et qu'on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au soir de la 14e journée, je le dis souvent, il y a une statistique qui était sortie qui annonçait que notre pourcentage de chance de se maintenir en Ligue 1 était quasiment de 0%. Donc on a été capable de renverser cette situation-là, donc pourquoi pas rêver encore plus haut et plus grand. Et ce serait magnifique de pouvoir vivre ça ensemble et que ça marque un peu l'histoire de cette équipe, l'histoire de ce groupe qui aura réussi à permettre à notre club dans un premier temps de rester en Ligue 1 et à continuer à être ambitieux, parce qu'on a un club qui est ambitieux depuis très longtemps. Vous savez, il me semble que c'est en 1987 quand Jean-Michel Aulas achète le club alors que le club est en Ligue 2, enfin en D2 en ce temps-là, sur les maillots c'était écrit Lyon ville européenne alors qu'on était en D2. Donc ça nous a toujours obsédé que de jouer l'Europe et vivre l'Europe. Donc c'est pas parce qu'on est pas forcément bien au classement qu'on n'y pense pas. Et donc quand on y pense, on est capable de mettre les actes en face.
Moi j'aime bien ce discours-là parce que oui. Non mais il pourrait avoir une fin de saison.
Je précise qu'après Lyon ville européenne, ils ont mis juste un bridou. C'était moins tout à coup c'était moins Europe.
D'accord. Je sais pas.
Et puis le 69
aussi. Et tout par gel aussi.
Je n'ai pas
69 au Lille, c'était pas un truc
c'était pas Jacques et Michel,
pas un journal, c'était
d'accord. D'accord. Merci pour la précision. Non, moi ce que je disais c'est que j'aime beaucoup son discours parce que cette ambition, donner cette ambition à son groupe, c'est très très important. Parce que il y a des coachs qui auraient pu se dire, voilà, bah on a eu nos 35 points pour le maintien, on va aller vivre notre finale à Lille, à Pierre Mauroy contre le Paris Saint-Germain, notre saison elle est faite, et d'avoir une petite saison libre. Et moi, je pense que la meilleure des préparations pour la finale, c'est de cultiver cette dynamique positive.
C'est vrai qu'ils ont une série de folie là, t'as vu le calendrier.
Bien sûr, mais
Brest, c'est en, Paris, mais, Monaco, mais c'est
en,
Lille.
C'est en continuant à être performant. Contre Monaco, ils avaient gagné à l'aller, même si ça avait été très très difficile. Contre Nice, ils ont gagné aussi. Contre Brest, ils avaient perdu 1-0 dans un match complètement pour Brest qui avait, je crois, qui était rentré au moins 40 fois dans la surface de réparation. Mais c'est en travaillant, en se donnant cette ambition-là que cette équipe-là va progresser et qu'elle va arriver dans la meilleure des formes contre le Paris Saint-Germain. Avoir une fin de saison en bazardant tous ces matchs-là, c'est pas, moi je pense que c'est pas la bonne idée. Donc moi je suis d'accord avec lui, même si, comme l'a dit tout à l'heure Flo, il va falloir qu'il soit bien meilleur que sur les 60 premières minutes, parce que face à une plus grosse équipe, ce soir ça fait 2-0, et on se l'est dit contre Montpellier, on se l'est dit aussi contre Metz, on se l'était dit aussi contre Toulouse. Donc ça, il va falloir que cette équipe de Lyon soit plus dans l'action que dans la réaction. Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, notamment contre Brest à la maison.
Luigi, il annonce la couleur, Pierre Sage.
Mais il a bien raison d'annoncer la couleur, puisque, messieurs, je vous rappelle quand même que Lyon, si on ne se qualifie pas pour l'Europe, mais on est dans la panade, hein, puisque là, encore une fois, Lyon, pas européen à la fin de la saison, c'est une catastrophe. Et la DNCG s'est pas gênée pour nous le rappeler au début de cette saison-là.
Donc, il y en a qui te diront entre la Conférence League et pas d'Europe, est-ce qu'il y a une grosse différence financièrement?
Mais bien sûr qu'il y a une grosse différence financièrement, en fait, juste parce que tu peux vendre un projet à la DNCG en disant que tu vas la gagner. Et résultat, ça peut être intégré, si tu vas avoir des revenus, etc. En fait, la DNCG, ils analysent des projets en perspective. Ils analysent pas les comptes bruts. Donc tu peux vendre quelque chose de supplémentaire à la DNCG pour pouvoir recruter. Donc oui, financièrement, il y a une réelle différence.
Oui, après, bon, faire croire à la DNCG que tu as gagné la Coupe d'Europe, ils sont pas naïfs avec de la DNCG.
La conférence, tu peux la gagner, la conférence.
T'en as gagné 2 sur 1650.
Oui. Non, mais la conférence, il y a eu deux éditions en l'occurrence, donc effectivement, on peut difficilement en avoir gagné 1650. Toujours est-il que moi j'ai confiance en Lyon quand il est question de compétition européenne, c'est pas comme si c'était un club qui n'en avait jamais connu. Et par ailleurs, je crois que jusqu'à il y a encore un mois ou deux, on était toujours le deuxième club français le mieux classé au ranking UEFA. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est pas d'avoir des ambitions pour l'Europe. Ce qui me fait peur, c'est de mettre à la poubelle nos ambitions pour le championnat de cette année et de se concentrer uniquement sur cette finale à Lille contre Paris. C'est ça ce qui me fait peur. Parce que, juste, rappel à tous, on va pas leur faire particulièrement peur au PSG avec cette équipe de l'Olympique Lyonnais, Mbappé. Et j'ai peur qu'ils se mettent dans la poche Jake O'Brien, Louis Caleta-Sar, Maitland Niles, etc. Et oui, ça tient à ça. Donc, il faut arrêter de s'imaginer que notre seule voie pour l'Europe, c'est cette finale. Là, maintenant, il va falloir aller gagner à Brest. Il va falloir essayer de revenir avec un nul.
C'est chez toi, hein, c'est chez toi.
Il va falloir gagner contre Brest. Et à partir de là, si on perd Brest, puis le PSG, puis Monaco, je suis d'accord, il faut tout mettre sur la finale contre le PSG. Mais tant que j'ai encore une chance mathématique probable d'arriver en Europe par le biais du championnat, je considère que c'est l'option la plus safe. Et stop, Lyon contre le PSG, on n'a pas les résultats de Cador. Hein. Ça fait depuis un but de Sergi Darder que j'ai pu rêver dans un match entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Donc, à un moment, on va arrêter de tirer des plans sur la comète. C'est pas sur cette coupe qu'on doit tout miser. On peut pas faire tapis là-dessus. On a besoin de l'Europe. Et très bon discours de Pierre Sage, donc, pour répondre à ta question initiale.
Surtout que devant, ça avance pas du tout. La moyenne 2 points sur les 5 derniers matchs. T'as Lens qui doit être à 6 ou 7, 7 sur 15. T'as Rennes qui est à 4 sur 15. T'as Marseille qui est à 6 sur 15. Et encore, c'était les deux premiers matchs, contre Clermont et contre Nantes. Entre temps, ils ont perdu contre le PSG, contre Rennes, contre Lille. Donc, il y a moyen. On va voir ce qui va se passer à eux de nous montrer qu'ils sont compétitifs sur ces matchs-là.
Ce qui est plutôt vraiment le truc à retenir quand même, c'est que c'est ces 70 premières minutes assez étonnantes, parce qu'il n'y avait pas de raison qui expliquait ça. Ils étaient plutôt bien en place d'ailleurs, le 4-1-4-1 fonctionnait en termes, on va dire, d'attente, ils étaient plutôt bien, et ils se sont fait bouger, je te dis, à tel point que Ablin et Mostafa Mohamed ont eu vraiment pas mal d'occasions en première période, que Lopez a été décisif.
Il y a une frappe de Mostafa sur le poteau.
Donc c'est je pense que Sage, quand il analysera le match, il va plus analyser cette partie-là, parce que le reste, il sait que ça, Lyon sait le faire. Il a lancé des joueurs frais qui ont fait la diff. Et Nantes a eu le tort de pas concrétiser.
Le match contre Reims la semaine dernière était meilleur de la part de Lyon dans le contenu, et pourtant il y a eu un partout. Et ce soir, tu gagnes, et il est pas extraordinaire le match. Il faut parler aussi de la rentrée de Cherki. Qui a été vraiment bonne. Il fait une belle semaine.
Reste plus long vers l'évaluation.
Ouais,
tu as raison.
Entre son bel interview dans SoFoot, et je crois que vous en avez parlé cette semaine. Et sa rentrée, ça fait plusieurs rentrées où il est positif. De la 60e à la 90e, il a été vraiment positif pour l'équipe. Entre les lignes, avec le petit Malik Fofana qui a fait aussi une très très belle entrée.
Et surtout, effectivement, là où tu as raison, c'est peut-être aussi dans les touches de balle.
Ouais, il a été pertinent. Il a pas porté énormément à moi. Mmh. Et tu veux que je te dise, moi, ce Cherki là, il me parle vraiment. Et sur le temps additionnel, de la 90e à la 96e, là, il commence un peu à jouer à l'envers. Mmh. Il y a 2-1 et il a 2-3 transitions où il respecte plus le jeu. Mmh. Où il doit la donner à Gift Orban, il fait semblant de lui donner, il va à gauche. Et là, je me dis, purée, Ryan, tu fais une super demi-heure, tu fais presque gagner ton équipe à toi tout seul avec le petit Fofana. Et là, tu t'es en train de tout gâcher.
Mais
parce que
t'as raison de parler d'une séquence importante là, parce que j'ai entendu que vous en parliez dans l'after avec Daniel, il a tout à fait raison. Cette interview, elle est très importante pour voir ce qu'est un joueur. C'est-à-dire que, effectivement, tu découvres un Cherki que tu ne connais pas comme ça. Et c'est très différent. Et je l'avais entendu aussi quand il a été avec Thierry Henry, quand il n'est pas certain d'être sélectionné. Et lui, il l'avait pris très positivement en disant après, je vais montrer un peu ce que je vaux.
Il dit qu'il avait raison de ne pas me prendre.
Voilà, il a raison de ne pas me prendre. Là, tu sens que ça, je mets sur le banc. Il dit ok, bah, je suis sur le banc, mais bah, je vais regagner ma place. Donc, s'il le prend comme ça, déjà mentalement, c'est bon. Après, il y a un truc que j'ai trouvé très bon, c'est quand il élimine sur le côté. Et qu'on croit qu'il va éliminer le deuxième joueur, justement, et qu'il fait la passe à ce moment-là. Et je me dis que s'il arrive à faire ça plus souvent, il sait tout faire. Donc, en fait, on a envie de dire, mais c'est bon, on sait que tu peux éliminer trois joueurs, mais parfois, il vaut mieux passer, donner et la récupérer derrière.
Et moi,
je sais
que l'adjoint Jamel Alioui, notamment, est beaucoup sur lui. Ils essayent vraiment de faire un gros, gros travail. Et dans le côté positif, c'est que oui, dans l'état d'esprit, il veut faire gagner les matchs. Quand il rentre, il l'a dit aussi en conférence de presse, aujourd'hui je suis pas prêt physiquement dans cette équipe là à jouer pendant 90 minutes. Si je peux apporter pendant 30, je dois apporter pendant 30, et c'est ce qu'il a fait après Toulouse notamment. Donc à poursuivre pour Ryan Cherki.
Décisif, mais dans ce cas-là, si on parle de lui, il faut qu'on parle aussi de Fofana.
Ah oui, non, Fofana j'aime beaucoup.
Décisif comme quasiment à chaque
fois. Luigi, donne-nous ton avis sur Cherki.
Cherki, pour le coup, fait encore partie de ceux qui disent qu'il a trop déçu pour le mettre titulaire maintenant. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé du rôle de Nouama dans cette équipe. Est-ce qu'il ne devrait pas, lui, devenir finisseur et plus être titulaire? Et bien, justement, parlons de Fofana. Parlons de Fofana, puisque moi, je vois un vrai truc. J'ai vraiment le sentiment que ça peut devenir un vrai bon petit joueur. Et je suis pas sûr que Nouama mérite d'être titularisé à la place de Fofana aujourd'hui.
Là, la dynamique, elle plaide pas pour Nouama. Nouama, il a eu beaucoup de titularisation, et sur les derniers matchs, c'est vrai que c'est assez décevant. On sent qu'il a de la qualité, qu'il peut allumer la lumière quand il veut, dans un peu comme Ousmane Dembélé, dans une partie de terrain un peu plus bas pour faire remonter le ballon. Le problème, c'est que dans la finition, il y a beaucoup trop de déchets. Et Fofana, tu sens que il a une particularité, c'est qu'il a un grain technique qui est différent. Il a une explosivité.
Ce qu'on appelle le QI foot. Hein.
Je sais pas si c'est uniquement le QI foot.
Ah, là, entre les deux, je crois qu'il y a de ça. Parce que tu vois,
peut-être, mais
ils ont
sûrement...
deux, ils ont un joueur qui en a pas du tout. C'est Guy Storman.
Tout droit, ouais. À Nouama, les gars.
Hein. À Guy Storman. À Nouama. Alors, il y a pas que tout droit.
Non,
attention. Il y a pas que tout droit. Mais il y a par contre le crochet récurrent que tout le monde a compris.
Oui, le coup de rein.
Tous les mecs, tous les défenseurs de Ligue 1, ça y est, le connaissent.
Il fait un tout droit latéral.
Il repique dans l'axe, ouais. Il repique dans l'axe. Mais par exemple, moi, celui qui, parmi toutes les recrues, me fait très peur, enfin, j'attends, hein, parce que ça restera un finisseur, un mec qui peut te mettre des buts, et il a encore marqué sur le troisième but. Mais le rapport au ballon de Gilles Corban,
c'est particulier.
Pour l'instant, j'ai les yeux qui piquent.
Moi, il me fait très peur sur et en dehors du terrain.
Non, mais pourquoi tu l'appelles Gift?
C'est Gift?
Ouais, c'est un cadeau, quoi.
Ah ouais, c'est vrai. Gift Orban, c'est vrai. Donc, ouais. Gift Orban, pour l'instant, son rapport au ballon, mais après,
c'est,
il sera.
T'es sur tes gifs sur les réseaux sociaux.
Ouais, gif sur, moi, c'est gif sur Twitter. Mais donc, on va attendre là-dessus. Mais oui, le petit Malik Fofana, doit être, et je pense que, de toute façon, Pierre Sage, il est assez lucide là-dessus, hein. Là, je pense qu'il jouera sur les prochains matchs.
Il avait un pépin, il y avait une incertitude sur lui. Parce que je sais qu'avant la journée, il était incertain et que c'est aussi pour ça qu'il a peut-être
pas. Il avait fait un très bon match à Lorient aussi, l'un des meilleurs matchs de Lyon,
après,
le 3-0.
Après, il y a toujours une hésitation chez les coachs. Quand ce système-là fonctionne, c'est-à-dire le mec qui sort et qui est très bon quand il entre, enfin le mec qui entre, je veux dire, et qui est très bon comme ça en remplaçant.
Est-ce qu'il serait bon s'il démarre?
Il serait bon à 100%. Là, il y a de la qualité. Fofana, il est voué un jour ou l'autre à être titulaire. Il va pas rester
peut-être
remplaçant.
Peut-être que les mecs profitent aussi du travail de Sap sur les 60 premières minutes.
Tout ça, c'est derrière, vrai, bien sûr. Bien sûr, parce que regarde, la défense, il faut se rappeler quand même que Nantes a perdu Commerce et que Zézé est rentré. Zézé, il a pris le coup de coude et derrière, il était quand même un peu en souffrance.
Il était
en mode plutôt.
Il avait un bonnet.
Plutôt Florent Manodou.
Ouais, Florent Manodou, ouais.
Florent Manodou. Mais ouais, effectivement, il était en mode plongeon.
Ouais.
Luigi, merci.
Merci, Luigi.
Merci beaucoup, messieurs. À la prochaine.
Bonjour à Mario.
Ouais.
Trop facile. J'aimerais parler du match de l'homme que Florent Gautreau a suivi de près ces derniers mois.
Oui.
Ah non, Nemanja.
Matic. Oui, parce que Matic, au début à Lyon, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. On se disait, tiens. Et au final, semaine après semaine, il y a vraiment de questions qui se posent quand même, non? Qu'est-ce que vous en
pensez? Ah non, il n'y a aucune question qui se pose sur ce joueur-là, puisqu'il le met dans des conditions idéales pour lui. Comme d'hab, Matic, il joue à son poste, là, devant la défense. Il s'est un petit peu après projeté.
Il joue un peu dans un fauteuil.
Il joue dans un fauteuil. Alors, et dans ce rôle-là, c'est parfait. C'est pour ça que je disais que, effectivement, comme Walid, que le changement de système ensuite, avec des joueurs plus créatifs et plus axiaux dans la deuxième partie du match, ça n'empêche pas que Matic il reste tout à fait bon. Mais si tu mets à côté de Matic, si tu mets pas en fait de gars capables d'aller remonter le terrain et aller en box to box, tu vas parfois être un peu en manque d'occasion. Mais en revanche, le gars installé comme ça par Pierre Sage en quarterback derrière, en récupérateur et en relanceur, en conservateur de ballon. En passeur.
Il a mieux terminé le match qu'il l'a démarré. Moi, j'étais un grand défenseur de Matic à Rennes. On s'était un peu écharpé avec Flo, notamment. Mais là, moi, je trouve que sa semaine, elle est moyenne à Matic. Autant il a fait un très très bon démarrage avec l'Olympique Lyonnais et on l'a senti. De toute façon, c'est pour moi la pierre angulaire de cette équipe. Quand il est moins bien, cette équipe-là est vraiment moins bien. Et entre Valenciennes, oui, heureusement que ça gagne contre Valenciennes, parce que contre Valenciennes, il joue un peu les mains dans les poches. Hein. Il est vraiment très très nonchalant, que ce soit défensivement ou même avec
son style. En fait.
Mais là contre Valenciennes, il était vraiment il était vraiment passé à côté. Même il sort à la 70e, c'est pas anodin. Et ce soir. Il a mis très peu, parce que moi ça me dérange pas que Matic il défende pas parce que c'est son style et Tolisso et Kakré doivent faire ce travail ou même quand Mangala est là. Mais même dans ses intensités de passe sur les 60 premières minutes, je l'ai trouvé très très en dedans. Et quand Cherki est rentré, tu l'as dit, il a joué un peu plus haut. Il a été chercher un peu ses passes. Il a été chercher un peu ses passes là. Il a notamment une passe qu'il fait pour Malik Fofana
dans
en fin de match là,
magnifique.
Dans la surface de réparation,
magnifique.
Petite passe cachée. Et là il était meilleur. Donc semaine moyenne, mais il reste très important pour cette équipe lyonnaise.
Là, ça dépend vraiment du coach. Si le coach ne lui dit pas. Je me souviens qu'avec Genesio, il y avait eu ça. On sentait que le coach lui avait dit parfois, il faut vraiment que tu te projettes un peu plus, que tu fasses un peu plus offensivement. Et on l'avait vu d'ailleurs en Ligue Europa le faire.
Contre le Panathinaikos.
Mais si tu lui dis pas et qu'il y a un système qui est mis en place dans lequel il peut se contenter de faire ce qu'il fait, il va faire comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance.
Mais j'aime bien ce petit dépassement de fonction parfois quand il le fait. il amène le surplus et puis sa qualité technique aide en fait.
Mais je pense que le système l'a aidé à faire ça. Mmh. Et effectivement d'avoir un relais comme Cherki même dans les petits espaces éventuellement autour de lui, tu vois, c'est de ça dont
Binot,
il a besoin.
Ils ont craqué
aussi
physiquement à ce moment-là. Ils ont reculé et là ils pouvaient le faire. Ouais.
Non mais c'est vrai que Matic c'est un joueur totalement à part et hors norme. Hein. Mais je suis un peu surpris, je vais te dire.
Après il est clivant, il peut être clivant.
Je suis surpris qu'il était titulaire contre Valenciennes parce que la stratégie avec Matic c'est aussi une stratégie de gestion du temps de jeu. Mmh. Et tu vois par exemple le match contre Valenciennes, c'est pas faire un joueur à Valenciennes, mmh, mais s'il y avait un match pour le faire un peu sortir, c'était sans doute celui-là parce que effectivement, si tu le fais
après,
jouer là comme ça,
demi-finale de Coupe de France, tu sors ton
élément. C'est vrai, je pense que ça j'avais moyen
de. Il m'avait surpris, son match contre Valenciennes m'avait surpris négativement, vraiment. Mais là, de toute façon, on va voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Mais ça reste un joueur très important pour Lyon.
Avant de parler de Nantes, j'aimerais qu'on accueille Quentin, qui est supporter lyonnais, qui a un petit coup de gueule à passer. Salut Quentin.
Qu'est-ce qu'il a, Quentin ?
Ouais, Quentin.
Ouais, allô, vous allez bien ?
Ça va, toi, Quentin ?
Ça va. Ouais, moi, en fait, je voulais parler. Et c'est huis clos qui a permis ça, là, d'entendre un peu tout ce qu'il dit sur le bord du terrain et tout. Ces deux, alors évidemment, on va dire c'est plus facile à dire pour moi, la supporter lyonnais qui est gagné ce soir. Mais l'analyse du football en premier par le prisme de l'arbitrage, c'est insupportable.
Ah bah oui, la pression qui est mise en permanence sur les arbitres.
Mais non, mais en fait, j'en peux plus. Là, t'entends les mecs sur le côté qui râle et l'arbitre et le coup de coude et ceci et cela. Vous avez entendu l'interview de Thierry Vela, je crois qu'il s'appelle à la fin du match.
Non, on n'a pas eu le temps.
Ben, je vous le dis, il dit « Ouais, je suis juste à côté, pour moi c'est rouge, Lacazette il peut jamais jouer le ballon ». Et en même temps, il regarde l'image et on voit Lacazette qui joue le ballon, qui est en train de t'allumer. Mais les gars, vous êtes plus lucides de rien. Nantes, si vous avez perdu le match ce soir, c'est parce que Lyon, ils ont touché 45 ballons dans la surface de Nantes et qu'à un moment, forcément, ça crée plein de situations. Et après, il y a des faits de jeu. Oui, peut-être que le rouge, il peut se donner.
Ouais, il peut se donner le rouge quand même. Objectivement, le rouge, il peut se donner quand même.
Mais bien sûr qu'il peut se donner. Ça, il y a même pas.
Donc, toi, ton message, c'est laisser l'arbitre arbitrer, en fait, si je comprends bien.
Mais c'est insupportable. Mais en fait, laissez l'arbitre arbitrer et remettez-vous vous en question. Vous pouvez pas passer une demi-heure là-dessus.
Il y a deux choses. T'as raison sur le fond. Hein, moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement dégoûté parce qu'on a entendu aujourd'hui. Parce que franchement,
Comboiré en direct, je crois. Est-ce qu'il est là, Antoine Comboiré, conférence de presse. Ah, c'est la question. Alors, on va pouvoir entendre les réponses.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des doutes et sur Nathan et aussi sur les milieux de terrain de savoir donc. Mais on avait le sentiment quand même si on était donc en souffrance défensivement, donc on avait quand même des possibilités d'aller de l'avant, quoi, d'aller leur poser des problèmes.
Bon, on n'est pas arrivé au tout début, on a raté la première question. Là, il parlait vraiment
de ses joueurs blessés. Je l'ai appelé, moi. Nathan me disait que tout allait bien, ça, il avait repris ses esprits et qu'il était capable d'être à 100%. Quoi.
Est-ce que vous avez déjà utilisé une session de remplacement avec
C'est ça.
Je crois qu'il parle de la blessure de Commerce.
Ouais, ouais.
J'en ai fait 4, 2 et 2.
On parle des changements.
Pardon ? Non, mais ils rentrent dans une période où nous, on est déjà en difficulté, quoi. Et eux, ils sont en train de prendre le dessus.
Bon, je crois qu'il n'a pas envie de faire des réponses très longues. Ouais. Donc, on va s'arrêter
juste
là. Merci, Quentin. Oui,
justement, par rapport à l'attitude de Comboiré, parce que bon, on sait comment il est, mais c'est vrai que là, ça met en lumière quand même un truc qui ne va absolument pas sur les bandes touches de Ligue 1. Bon, on va pas y revenir, mais c'était vraiment catastrophique. Après, le Nantes perd. C'est pour ça que même si Lyon n'a pas été bon, je tiens effectivement, comme l'a dit Quentin, à dire que Lyon a plus tiré, Lyon a eu plus d'occasions, Lyon a eu plus de ballons dans la surface nantaise. Ça, c'est quand même une réalité. Et surtout, côté nantais, tu as ce match qui finalement échappe à Lyon. Mais tu ne mets pas ce deuxième but alors que tu as l'occasion de le mettre. Ablin, je voulais en parler, c'est intéressant. Comboiré le remet complètement en selle. Parfait. J'ai jamais vu Ablin aussi bien dans son attitude, dans son langage corporel depuis des mois que ce soir, avec les deux derniers matchs. Donc, tant mieux pour Ablin.
Il
a un truc, mais il lui manque de la puissance, il lui manque de la confiance, il manque un truc. Il marque très vite. Mais derrière, même lui, c'est insuffisant. Ses frappes au centre du but, dans les bras du gardien, ça peut pas le faire. Derrière.
Reste enchaînement sur Maitland-Niles, s'il est beau quand même. Lopez,
ouais,
sort très vite.
Ouais, mais après, ouais, Mohamed, Mostafa Mohamed, il marque pas. Donc, Nantes. ne doit s'en prendre qu'à son jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas marqué dans les temps faibles lyonnais. Ils ont eu l'occasion. Et honnêtement, je pensais pas que Nantes aurait autant d'occasions contre Lyon. Ils ont pas marqué. Derrière, ils se font quand même globalement manger. Et quand il y a les entrants lyonnais, c'est terminé. Il y a plus personne. C'est le foot. Bah après, tu pourras faire. Maintenant, pour revenir à l'action. Là, typiquement, on est dans le fait d'arbitrage et la décision d'arbitre. Tout le monde l'a vu. La VAR l'a vu. Tout le monde a vu que la Lacazette, en se levant, fait un truc qu'il ne doit pas faire parce qu'il met carrément son bras dans la tête de l'adversaire. Donc, si à partir de là, les arbitres ont décidé que, malgré tout ça, ils ont bien vu que la Lacazette avait mal sauté, qu'il n'aurait pas dû sauter comme ça, qu'il a mis son coude et qu'il a fait très mal au Nantais qui saigne, et qu'ils n'ont pas décidé de lui mettre le rouge. Effectivement, c'est vraiment une décision de l'arbitre. C'est pas qu'ils ont pas vu un truc ou qu'il leur a échappé quelque chose. Maintenant, moi, je pense, effectivement, j'ai cru, quand j'ai vu l'action au ralenti, qu'ils allaient sortir le rouge directement. Je pensais qu'ils allaient sortir le rouge.
Moi, ça.
Pourquoi?
Je ne sais pas quelle est la
raison pour laquelle il ne sort pas, par exemple.
Et puis après, bon, on va accueillir les supporters nantais, mais c'est toujours pareil. Même s'il y avait eu rouge, t'as pas la garantie de gagner le match. Enfin, c'est toujours pareil.
1-0 à 11 contre 10 quand même.
C'est vrai que tu sais pas.
Ouais, tu sais pas. Rien dans le foot, mais.
Oui. Bon, t'enlèves le capitaine et le buteur lyonnais.
T'enlèves le buteur lyonnais qui égalise derrière.
Tiens, bah, il est là, justement, Alexandre Lacazette, on va pouvoir l'écouter.
Il reste 6 matchs, il me semble. Donc, il y a encore beaucoup de matchs à jouer et tout est possible.
Bah, tout est possible, d'autant qu'il vous reste 6 matchs au championnat et la finale de Coupe de France. Donc, sur les deux tableaux, vous pouvez. Atteindre cet objectif.
Oui, on peut l'atteindre. Après, je reste maintenant concentré sur le championnat. On a le temps de penser à la Coupe de France. Mais oui, sur le championnat, il reste 6 matchs. Ça fait pas mal de points engrangés. On a des beaux matchs à jouer, donc c'est que du positif pour nous.
C'est votre parcours et les difficultés en début de saison qui vous font rester prudent aussi sur tout ce qui peut se passer.
Oui, totalement, parce qu'à l'image de notre première mi-temps, on est pas mal, mais on encaisse quand même un but. Donc, tout n'est pas parfait, bien sûr. On a encore beaucoup de choses à corriger, mais il faut rester sur le positif et sur cette deuxième mi-temps et les buts qu'on a pu mettre.
C'est quand même porté.
Voilà pour Alexandre Lacazette. Dans un instant, les droits, on va parler de Nantes.
Un tout petit truc.
Avec Joseph qui nous a
parlé. On lui dit à Lacazette, vous pouvez jouer sur deux tableaux, on va parler. C'est vrai aussi qu'ils peuvent perdre sur les deux, enfin perdre. Ils peuvent ne pas se qualifier en championnat, logiquement, et perdre en coupe, c'est quand même aussi, ce serait pas incroyable non plus vu leur saison, quoi.
On est de retour dans quelques instants pour parler de Nantes et les autres matchs de Ligue 1 d'ici minuit dans l'after.